En 1940, après la défaite française, il y a plusieurs centaines d'officiers tchécoslovaques qui rejoignent la Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, bah, ces malheureux officiers ont, pour la plupart, environ 3 ou 400 d'entre eux n'ont pas d'affectation, parce qu'il n'y a pas assez de troupes à commander. Bon, déjà, il y a des mouvements de rébellion contre le haut commandement tchécoslovaque, il y a des pétitions, il y a un certain nombre d'officiers qui sont internés, qui sont dégradés. Bref, il y a un effort, enfin, il y a une phase de répression qui s'abat sur ces hommes. Il y a aussi beaucoup de critiques par rapport à la campagne de France, qui est considérée comme ayant été malmenée. Alors évidemment, à l'échelle des Tchécoslovaques, c'est un peu paradoxal puisqu'ils n'ont pas une prise très importante sur le cours des événements. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'officiers, donc souvent des officiers un peu âgés, des officiers supérieurs, mais pas seulement, qui sont accusés d'avoir été incompétents, alcooliques, voire chapardeurs dans les provisions pendant la retraite en particulier.
Ils sont accusés par qui exactement? C'est par le gouvernement en exil?
Ils sont accusés par d'autres officiers, disons, il y a des rumeurs, il y a des bruits qui courent. C'est rapporté notamment par certains officiers. Enfin, il y a des rapports, il existe quelques rapports qui mentionnent ces critiques, en fait. Donc, il y a un bruit de fond, disons, très négatif, qui vise qui n'est pas monopolistique, mais qui vise quand même un certain nombre d'officiers tchécoslovaques. Et en fait, c'est assez logique dans un contexte de défaite, d'effondrement. Il n'y a pas de perspective de libération ou de victoire à court ou moyen terme. Donc, évidemment, les rancœurs ressurgissent. Et donc, dans ce contexte-là, il y a certains officiers qui considèrent que l'armée tchécoslovaque, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire en gros une petite brigade d'environ 3 000 personnes, cette armée, elle sert à rien, elle a pas de perspective de se battre rapidement. Et donc il y a des officiers et des sous-officiers qui désirent rejoindre d'autres forces armées pour participer plus directement au combat. Et donc parmi ces forces armées, on trouve, bon, il y a bien sûr les forces armées britanniques, alors avec différents corps, il y a la Royal Air Force, mais il y a aussi des troupes terrestres,
Bien
bref,
sûr.
je passe là-dessus. Et il y a plus marginalement, il y a les Polonais, les Australiens qui ont une réputation combattante assez positive. Et puis il y a les Français libres. Et les Français libres, pour des tas de raisons, passent pour des gens aventureux, volontaires. En plus, c'est des rebelles. Ils n'ont pas de gouvernement. Enfin, ils ont le gouvernement de De Gaulle, mais c'est tout frais. Pour ces Tchécoslovaques un peu désœuvrés, c'est une opportunité intéressante. Et donc, en fait, il y a aussi, par ailleurs, une francophilie assez forte dans l'armée tchécoslovaque qui date
Bien sûr.
d'avant, bon, évidemment, mais de la fin de Première Guerre mondiale. Et il y a beaucoup d'officiers tchécoslovaques qui parlent français, plus ou moins bien, mais
Et il y a
ouais.
aussi une demande du côté de De Gaulle, si j'ai bien compris aussi,
Oui,
qui veut recruter ces gens-là, quoi.
absolument. Bah, en fait, la France libre, c'est quelque chose de minuscule au départ, hein. C'est quelques milliers d'hommes à Londres, tout compris, hein, en comptant les forces aériennes françaises libres, les forces navales françaises libres. Et donc oui, en fait, c'est un ensemble un mélange de militaires de carrière qui ont décidé de rester à Londres, mais ils sont très peu nombreux finalement, et puis de volontaires venus plus ou moins du monde entier à force. Et bref, beaucoup de gens qui ont pas forcément une expérience du commandement, et donc recruter des officiers francophones en plus pour partie, c'est une opportunité intéressante. Et puis il y a la tradition française de la Légion étrangère aussi. C'est pas une rupture dans les pratiques de recrutement françaises. Donc il y a un certain nombre d'officiers qui vont rejoindre. Alors le plus connu pour plusieurs raisons, c'est Otto Wagner.
Alors on en reparlera après, ça c'est
On
sûr.
en parlera après, voilà. Mais juste pour dire que Otto Wagner illustre un peu ça, parce qu'il est passé par Saint-Cyr dans les années 20, comme officier à titre étranger, hein, comme élève officier à titre étranger, ce qui est une pratique qui était courante et qui persiste encore aujourd'hui. Et évidemment, il parle français. Donc voilà, simplement pour dire, voilà un peu les motivations.
Et en effet, il a un destin incroyable, comme je disais, on reviendra là-dessus peut-être tout à l'heure, justement, pour donner cet exemple, parce qu'il est quand même très emblématique. Il faut quand même dire qu'ils doivent bénéficier d'une autorisation spéciale de Benesch, hein, donc le président en exil qui est basé à Londres. Où sont-ils affectés? Si j'ai bien compris, en fait, ils vont être envoyés en Afrique, en fait.
Oui, exactement. En fait, le destin de la France libre se joue en Afrique. Ah oui, il y a deux ouvrages. Il y a les travaux de Gérault Létang et les travaux d'Eric Jennings qui le soulignent bien. En fait, le front européen, il est inexistant jusqu'au débarquement pour les Français libres. Enfin non, il y a la campagne d'Italie à partir de 1943, mais globalement, la campagne d'Italie, elle se fait dans la continuité des campagnes en Afrique et
Tout à fait.
au Proche-Orient. Donc voilà. Donc en fait, ils se retrouvent là-bas. Ils se retrouvent soit en Syrie, où il y a aussi, d'ailleurs, c'est assez paradoxal, il y a un certain nombre de soldats de la Légion étrangère aux ordres de Vichy qui sont tchèques eux-mêmes, enfin, qui sont d'origine tchèque ou d'origine slovaque et qui vont rencontrer des soldats tchèques ou slovaques qui sont dans la France libre. Bon, globalement, ils vont pas vraiment directement s'entretuer, mais c'est un combat fratricide à l'échelle des forces, on va dire, coloniales françaises. Et donc, il y a des deux côtés, il y a quelques Tchèques et Slovaques. Bon. Donc, ces gens, effectivement, vont se retrouver essentiellement en Afrique, ils vont passer donc soit par la Syrie ou par la Palestine, qui est un peu le point. Un point de recrutement important côté britannique et aussi pour les Français libres avant juin 41. Et ils vont passer, bien sûr, et certains vont suivre un parcours assez au long cours à travers l'Atlantique pour rejoindre le Congo, le Cameroun, le Gabon en AEF, hein, et puis ensuite remonter jusqu'aux troupes à l'époque colonel puis général Leclerc, où ils vont combattre contre les Italiens et les Allemands dans le Fezzan et dans le sud de la Libye, voilà, plus globalement.
Il faut s'imaginer, en fait, c'est vraiment un tout petit groupe, hein, c'est une poignée d'hommes. Je crois que j'avais trouvé 58 soldats à peu près, et dont 7 pilotes, grosso modo, au niveau des chiffres.
Oui, on est vraiment dans cet ordre-là. De mémoire, il y a quelque chose comme 15 officiers. On va trouver d'autres personnels non officiers, effectivement répartis un peu dans différentes spécialités, des fantassins principalement, évidemment, mais aussi d'autres, dont quelques aviateurs, sachant que la plupart des aviateurs qui étaient dans l'armée de l'air en 1939-40, ils sont plutôt passés dans les forces aériennes britanniques. Donc, et puis la France libre n'a pas une armée de l'air très considérable de toute façon. C'est surtout du transport et de la reconnaissance. Donc oui, c'est tout petit. C'est un peu anecdotique en réalité, hein, soyons francs. C'est anecdotique, on est content d'en parler parce que ça concerne les Tchèques et les Slovaques, mais ça reste effectivement mineur. Ce qui est moins anecdotique et qui est intéressant, c'est que finalement, la participation à l'effort de guerre allié, c'est vraiment quelque chose d'assez transnational. On a l'habitude d'avoir de manipuler nos catégories nationales avec les grands alliés. Hein, ça, c'est un point de vue propre à des États puissances, on va dire. Mais en réalité, ça s'appuie sur un réservoir, enfin sur des ressources humaines et matérielles qui sont puisées dans des petits États, en termes de puissance, comme la Tchécoslovaquie ou même la Pologne, à certains égards, qui sont puisées dans le monde colonial. Hein, et donc voilà, tout ça s'appuie en fait sur cet effort. Et puis les gens circulent d'une force armée à l'autre aussi quand ils peuvent. Et Wagner, dont on vous reparlera, mais c'est voilà, armée, c'est un peu d'armée française, puis armée tchécoslovaque, puis la France libre, puis à nouveau l'armée tchécoslovaque. Donc ça tourne.
C'est ça qui est intéressant justement avec cette armée tchécoslovaque, en effet, enfin en tout cas en exil et tout, c'est que en effet, comme vous dites, elle a combattu alors pour le coup sur différents fronts, hein, parce que là évidemment on parle du côté ouest, mais évidemment il y a le côté est. Hein. Ça, je pense qu'on en reparlera évidemment dans d'autres émissions avec peut-être d'autres intervenants. Là, vous dites en effet, c'est anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ça fait le lien quand même, une espèce de continuité de ces relations franco-tchécoslovaques, même si c'est à toute petite échelle. Vous parlez donc d'Otto Wagner, donc en effet parmi ses futurs. Hein, compagnon de la libération, notamment j'aimerais quand même rappeler le nom du lieutenant Evan Spaniel parce qu'on a fait une émission là-dessus en novembre et qui est mort à Krafft il y a 80 ans, alors maintenant 81 ans cette année puisque
Oui, en
c'était en
44,
novembre
donc.
1900, voilà, 44, qui était le fils d'un sculpteur tchèque très connu,
Oui,
Otakar
et
Spaniel.
qui a une tombe au cimetière de Vyšehrad à Prague,
Tout à fait, et dont
assurément.
la croix a été réparée il y a quelques années, restaurée. Enfin, changé pour le coup, voilà, par Christophe Cheneau, grâce à l'aide de Christophe Cheneau, voilà. Et donc Ivan Spaniel, donc c'est un nom important aussi, voilà, dans ce petit groupe de Tchèques dans la France libre. Mais donc on revient à Otto Wagner, qui a aussi un parcours complètement incroyable. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en quelques mots sur sa biographie et qu'est-ce qu'il fait en fait dans ce corps d'armée?
Otto Wagner, qui est né en 1902, c'est un officier de carrière, hein, tchécoslovaque, et en fait, en raison de sa génération, il est trop jeune pour participer à la Première Guerre mondiale, hein, et donc il s'engage dans l'armée tchécoslovaque après la naissance, une fois que la République est déjà installée.
Donc
Il passe effectivement.
c'est un pur produit de la Première République tchécoslovaque, en fait.
C'est un pur produit de la Première République tchécoslovaque et de l'Alliance franco-tchécoslovaque aussi, on peut le dire, parce que dès le début, il va très rapidement, en 1923, ouais, donc il a 21 ans, il passe par Saint-Cyr. C'est vraiment quelqu'un qui suit une carrière qui est pas d'ailleurs particulièrement flamboyante, hein, voilà, il doit être capitaine breveté, quelque chose comme ça, à la veille de Munich, donc voilà, mais tout à fait honorable. En 1939, il part en exil, hein, donc au printemps, comme beaucoup de, enfin, comme un certain, comme plusieurs centaines d'officiers tchécoslovaques. Il part en exil, il se retrouve en France. De toute façon, c'est en France que se constitue cette armée, avec quelques guillemets pour la dimension, mais enfin, en tout cas, ces premières unités tchécoslovaques qui sont censées incarner la restauration future espérée de la souveraineté tchécoslovaque dans ses frontières d'avant Munich. Donc Wagner participe à la campagne de France, mais en fait il participe, comme les deux régiments tchécoslovaques engagés, plutôt à la retraite qu'à la partie voilà, de résistance à la percée allemande. Quand les Tchécoslovaques sont engagés mi-juin, enfin autour du 10-15 juin, globalement les choses sont perdues, hein, pour les armées françaises. Bref, donc il participe à tout ça. Il part ensuite en exil en Grande-Bretagne, hein, comme l'essentiel d'ailleurs des volontaires. Hein, ceux qui restent sont plutôt des mobilisés, beaucoup de Slovaques. Des gens qui ont des attaches en France, notamment maritales. Et donc Wagner part en Angleterre, et là il est confronté à cette espèce de goulot d'étranglement professionnel et vocationnel, on pourrait dire. Et donc effectivement, les autorités tchécoslovaques, donc Beneš, hein, in fine, mais en dessous il y a, voilà, tout le la pyramide militaire, Sergueï Ingres, Rudolf Jest, etc. C'est des officiers un peu col et serré qui tiennent pas particulièrement à conserver dans leur rang ces rebelles. Ce sont des rebelles, c'est des gens qui ont du tempérament. Et Wagner est connu pour être une grande gueule, et il le sera jusqu'au bout de sa vie. Hein. C'est
Forte
assez
tête.
intéressant. Un insoumis absolu. C'est assez paradoxal pour un militaire d'être aussi rétif à l'autorité, on pourrait dire. Mais donc il rejoint la France libre. Il passe par la Syrie, hein, où il se retrouve dans la 3e demi-brigade de la Légion étrangère, hein, fameuse. De là, il va être envoyé à travers l'Atlantique jusqu'au Congo, et il va remonter jusqu'en Égypte, en gros. Ça fait partie de ces bizarreries des circulations impériales et coloniales du temps de guerre, où évidemment beaucoup d'espaces, notamment maritimes, sont bloqués à cause de la guerre sous-marine. Voilà, ça complique un peu.
Il s'illustre dans une bataille en particulier?
Bah oui, alors il est surtout connu pour avoir commandé une compagnie lors de la bataille de Bir Hakeim, donc en 1942, hein, donc en juin 42. Donc c'est le moment où, pour mémoire, hein, les troupes, enfin quelques bataillons français dans une oasis, bloquent en gros l'offensive conjointe italo-allemande, participe à l'échec, en fait, de l'offensive de Rommel, en formant une espèce de point d'appui impénétrable, qui, bon, finit quand même par être évacué de nuit dans des conditions dantesques. Et donc Wagner, encore une fois, s'en tire, mais il sera blessé plus tard en octobre dans un combat pendant la bataille d'El Alamein. Donc cette bataille qui est vraiment la dernière grosse défaite de Rommel avant sa retraite jusqu'en Tunisie. Et donc c'est globalement essentiellement l'effort, évidemment, des Britanniques et de leurs troupes, mais enfin, le Commonwealth, c'est de l'Empire, hein. Wagner participe à tout ça, et il est blessé, donc ça va être long après, hein. Il est vraiment gravement blessé, il est convalescent, et il va finalement retourner en France et participer aux opérations contre les poches de l'Atlantique à partir de janvier 1945.
Tous ces soldats, qui ont été, enfin, tous ces soldats, cette poignée, de soldats, tchécoslovaques, dans la France libre, qu'est-ce qui se passe après la fin de la guerre? Ils sont démobilisés, ils rentrent en Tchécoslovaquie. Est-ce qu'ils vont subir, aussi, comme, leurs compagnons, notamment qui sont passés par la RAF, les purges, après l'arrivée au pouvoir, des communistes?
Oui, c'est tout à fait le cas. Alors en fait, ce qui se passe, il y a deux phénomènes un peu parallèles. Il y a d'abord un phénomène de reconnaissance de la part à la fois de la France, alors désormais la France tout court, hein, et donc la France, disons, gaulliste, victorieuse,
Ils sont
d'un certain
décorés,
nombre de...
quoi.
Voilà, ils sont décorés, mais ils ne sont pas décorés par n'importe quoi. Wagner et deux, trois autres Tchécoslovaques sont décorés de l'Ordre de la Libération, qui est une décoration qui, dans l'ordre protocolaire, est au-dessus de la Légion d'honneur. Donc c'est vraiment l'honneur absolument suprême dans la hiérarchie nouvelle qui est en train de se recomposer à l'échelle de la France. Donc ça c'est important. Et ils sont aussi quand même honorés par la Tchécoslovaquie. C'est vrai que c'était des rebelles, ils ont été embêtants. Enfin, il y a des traces écrites de conflits, notamment quand Wagner était dans la France libre, où il se moque de l'armée tchécoslovaque, où il dit que c'est une fucking army, il dit que c'est une armée de gonzesses. Quand il est en Syrie, et donc le général tchécoslovaque qui commande la mission militaire au Proche-Orient écrit au général Katroux en lui disant, dans un français un peu approximatif, en lui disant, il faudrait calmer quand même vos troupes, parce que
Vos
c'est pénible.
ardeurs, enfin les ardeurs de
Les
ces gens.
ardeurs de, voilà, qu'il arrête de, en gros, de diffamer. C'est quasiment une plainte en diffamation. Et donc, en fait, malgré cela, il va aussi, bien sûr, être décoré d'un certain nombre de médailles tchécoslovaques, la Croix de guerre, etc. Et il va rentrer au pays avec le grade de colonel. Voilà. Il n'y a pas une rancune manifeste de la part des autorités tchécoslovaques. Et donc, ça m'amène à cette question de qu'est-ce qui se passe après février 1948? Bon, déjà, ces hommes ne sont pas très nombreux. Mais malgré tout, parmi les services de renseignement tchécoslovaques, donc les services désormais communistes, la plupart évidemment des actions axées qui sont organisées par le STB et les autres organes similaires sont dirigées plutôt contre des gens qui seraient alliés à l'impérialisme américain, éventuellement les Britanniques. Les Français sont pas au départ les premières cibles, mais assez rapidement, il va y avoir aussi une action dédiée au lien avec les services de renseignement français. Bon, pas inactifs, mais qui sont clairement pas en train d'essayer de détruire la Tchécoslovaquie communiste à toute force. Tous ceux qui ont été associés à la France pendant la guerre vont être à risque. Et Wagner est toujours dans l'armée et il participe même à un stage de commandement dans un château en 1950 ou 51. Où il dit à voix haute que le jour où ce stage se terminera sera le meilleur jour de sa vie, qu'il n'en peut plus. Par ailleurs, il refuse de porter ses décorations tchécoslovaques et il porte ses décorations françaises dans un acte de défiance. Voilà. Donc en fait, il est vraiment dans une logique presque tellement excessive que je dirais que ça aurait tendance à le préserver un temps, parce qu'il passe peut-être presque pour un clown finalement, ou pour un bouffon, hein, ou pour un fou. C'est difficile à dire, mais en tout cas, il n'est finalement chassé de l'armée qu'en 51. Étant donné sa grande gueule
Son background.
et presque tardif, presque tardif. Et donc après, il va être emprisonné, il va être relégué à la campagne, il va être relégué à des tâches d'ouvrier forestier, travail manuel, dans un logement insalubre, sans les aménités de base, ce qui va aussi affecter sa santé. Et il va décéder en 1974 à Jihlava, je crois, à l'hôpital. Il a fait pas mal de séjours à l'hôpital sans d'ailleurs être couvert d'un point de vue santé par quoi que ce soit. Donc pour lui, ça a été une fin de vie compliquée. Et jusqu'au bout, le Wagner s'est extrêmement a toujours insisté sur son lien avec la France libre. Il a écrit au général Koenig au tout début des années 70. À un moment, il a eu une proposition pour éventuellement aller s'installer en France dans une maison de retraite pour finir ses jours de manière plus paisible, mais il s'est rendu compte juste après la répression du printemps de Prague et le début de la normalisation, où il y a eu un petit moment d'allègement. Il a d'ailleurs pu publier une partie de ses
Un
mémoires.
livre.
Hein, il a eu un moment la possibilité de le faire, et puis finalement, avec la normalisation, il pouvait plus vendre son. Il avait réussi à avoir un modeste appartement, il pouvait plus le vendre, il fallait quasiment qu'il l'abandonne. Il serait retrouvé complètement paupérisé. Bref, il a préféré rester et ça s'est pas fait. Mais il a continué à dessiner d'un plan de Dirac-M aux archives de l'Ordre de Libération, tout ça. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a gardé ce lien très particulier que, évidemment, en tant qu'historien de la Tchécoslovaquie, je peux comprendre dans l'autre sens aussi. On a parfois des fidélités qui sont liées à ces moments partagés, voilà, qui sont pas le cadre national éclate assez facilement.